Jean-Gilbert, aux amis, bonjour. Aux amis, j'étais très content de t'apercevoir hier. En tout cas, je pense que c'était toi. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bonjour Farley, bonjour Marie-André, bonjour Lucie. Je ne vois pas tout le monde, je pense qu'il me manque quelqu'un. Sais pas qui ça peut être. Donc j'espère que vous allez bien. On est le lundi 11 avril 2022. Matin frisquet, il ne fait que zéro actuellement sur Montréal. Et ça va réchauffer autour de 10 degrés, je crois, plus tard en après-midi. Donc assurément, je ne vois pas tout le monde parce qu'on est déjà 7, 8 même maintenant. Et je n'ai pas salué tout le monde pour sûr. Bonjour Maria. Que Dieu te bénisse. Bonjour à Manon. Manon, est-ce que vous nous regardez depuis Montréal ou vous êtes ailleurs. Bonjour Marie-André. Bonjour à mon père, à ma mère. Alors, comme je disais, journée ensoleillée pour Montréal, mais un peu fraîche. Bonjour Denise, bonjour Gérard. J'ai vu les photos que Gérard a mises sur sa page Facebook cette semaine. Ils ont encore eu de la neige dans les Laurentides. Moi ici, il reste plus rien, plus rien, plus rien. Bonjour Mireille, ça c'est la belle-mère. Salut la belle-mère, shalom, shalom. Bon, cette semaine, on entreprend une nouvelle série. On prend bonjour à Manon. Cette fois-ci, c'est Manon, l'épouse du pasteur André. Donc bonjour à Manon et au pasteur André. Alors, c'était Manon Hébert, là c'est Manon Bernard. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. La sœur Auxilia, Chantal, Mona. Enchantée, Manon, cette fois-ci c'est Manon Hébert. Donc de Richelieu, d'accord. Donc la belle maman d'Evans. Soyez bénis, bienvenue parmi nous encore une fois. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit. Là, les camions commencent à arriver devant la maison pour les travaux. Donc, j'espère que ça ne nous gênera pas trop. Bonjour Janine, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine Guy, sois béni toi aussi. Bonjour Francine. Bonjour Natacha, bonjour Indirène. Bonjour à la petite famille. Bonjour à vous aussi, la belle-mère. Merci Francine. Thérèse, bonjour. Vous venez d'apercevoir le museau de Nema. Ok, c'est fini. C'est fini. Et elle revient. C'est vrai qu'avec la prise de vue qu'on a maintenant, vous la voyez plus beaucoup, beaucoup. Alors que je revienne à une ancienne prise de vue pour que vous puissiez bien admirer son joli minois. Salut Daniel. Bon début de semaine à toi aussi. Smarilda, bonjour. Bonne semaine à vous. Merci Janine. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Bonjour Marie-Marthe. Bonjour France, bonjour Patrick. Eux nous regardent depuis Gatineau. Bonjour Pascal. Good morning, Pastor David. Alors, on vous rappelle que on a une réunion spéciale ce jeudi, ce qui fait que durant toute la semaine, cette semaine, vous aurez deux rencontres par jour. Tous les matins à 8h30, nos bénédictions matinales. Mais de surcroît à cela, à tous les soirs, il y a rencontre. Ce soir, il y a cours biblique sur le livre des Éphésiens avec le pasteur André. Là, je pense que l'image a bloqué. Donc, ce soir, donc cours biblique avec le pasteur André sur le livre des Éphésiens. Demain soir, c'est le cours sur les fondements chrétiens. Mercredi soir, c'est l'étude biblique. Et jeudi soir, on a Sainte-Cène, donc célébration de la communion. Jeudi soir. Là, ça a bloqué ici. Je ne sais pas si ça a bloqué de votre côté aussi, mais l'image ici a bloqué. Je vais essayer de me reconnecter ici, voir comment ça se passe. Mais là, je pense qu'on a un petit problème. Ça bloque, ça bloque. Brancher. Non, l'image est encore bloquée ici. C'est le charme d'avoir des travaux près de la maison. Donc, voilà. On va essayer de continuer en espérant que vous, ça fonctionne. Je vois plus non plus les messages entrer. Malheureusement. Donc les perturbations, c'est arrivé avec les camions qui se sont pointés. Donc encore une petite minute et on va débuter. Ça a l'air de recommencer à fonctionner puis d'arrêter. Donc on va essayer d'en saluer quelques-uns. Pasteur David, good morning. Bernadette, bonjour. Nathalie, bonjour. Denise de Laval, bonjour. Florie Louis, bonjour. Sonia Camille, bonjour. Yolaine, bonjour. Myriam Donald, bonjour. Sylvia, bonjour. Alors, je reprends les annonces. Claude, bonjour. Je vois ton texto qui est rentré, mais je ne te vois pas connecté ce matin, juste pour que tu saches. Donc, je rappelle les annonces. Donc, réunion à tous les matins avec nos bénédictions matinales. Mais de surcroît à cela, cette semaine, tous les soirs, on a une rencontre. Donc, ce soir avec le pasteur André à 19h. C'est le cours sur le livre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Demain soir, 19 h, toujours avec le pasteur André, c'est le cours sur les fondements chrétiens, les croyances de base du chrétien. Mercredi soir, c'est la soirée d'études bibliques. Jeudi soir, réunion exceptionnelle en raison de Pâques. On célèbre donc la Sainte Cène jeudi soir en ligne. Donc, on vous invite à préparer tout ce qui est nécessaire, donc le vin ou le jus de raisin plutôt, et puis le pain. Donc, ce sera l'occasion de célébrer, donc de commémorer la mort de Jésus jeudi soir. Vendredi soir, on aura notre réunion de prière et d'intercession habituelle. Et certains vont demander pourquoi on fait la Sainte Cène le jeudi soir. Tout simplement pour bien cadrer dans ce qui nous a enseigné dans la parole de Dieu. Jésus a pris la Sainte Cène ou la communion une journée avant sa mort, donc une journée avant le sabbat. Et le sabbat commence le vendredi soir et non pas le jeudi soir. Donc, jeudi soir, on célèbre la Sainte Cène comme Jésus l'a célébrée avec ses disciples à l'occasion de Pâques. Donc, préparez vos pains, votre pain, préparez votre coupe, jus de raisin ou vin, et puis préparez surtout vos cœurs. La Bible nous dit que lorsqu'on prend la Sainte Cène, on doit s'approcher de la table en ayant des cœurs purs, en ayant été sanctifié par le Seigneur, et le livre des Corinthiens va même aller jusqu'à dire que plusieurs sont morts et même sont tombés malades en raison du fait d'avoir pris la Sainte Cène inadéquatement. Donc, on vous invite vraiment, si vous avez un grief concernant quelqu'un, vous pardonnez, vous relâchez la personne. Si vous avez à demander pardon, vous allez demander pardon. Mais il est bien important qu'on prenne tous la Sainte Cène dans les bonnes conditions. Et voilà, donc ça c'est les petites annonces pour cette semaine. On va prier et après ça, on va débuter. Deux, trois personnes avant qu'on va saluer qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Claude, maintenant je te vois. Sœur Argelia, bonjour. Consuelo, bonjour, bon retour parmi nous. Et puis aussi nos condoléances. On a appris effectivement que votre maman était décédée. Donc, que Dieu puisse vous apporter la consolation. Babette, Andreas, bonjour. Ozanie, Jean-Gilbert, bonjour. Maggie, bonjour. Suze, bonjour. Milly, Vladimir et la petite famille, bonjour. Et voilà. Donc, la vidéo s'est arrêtée, Francine, mais si vous redémarrez la page, la vidéo fonctionne. En tout cas, c'est ce qui s'est passé de mon côté. Alors prions et on débute pour ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole que nous nous apprêtons à partager. Sois avec nous, dirige-nous, conduis-nous, inspire-nous et que ta parole nous amène à chercher encore davantage ta présence. Que ta parole nous amène à intime avec toi dans laquelle Seigneur tu nous parles, dans laquelle tu nous instruis et dans laquelle tu transformes nos vies. Nous t'avons prié avec l'assurance que tu prends soin de nous, avec cette assurance que tu pourvois à ce qui nous est nécessaire, notamment, Seigneur, avec une parole adéquate pour aujourd'hui, pensée de toute éternité pour tes enfants aujourd'hui. Surprends-nous, étonne-nous, et qu'en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, la thématique de cette semaine, comme vous l'avez vu dans mon mot d'introduction, dans le titre que j'ai donné à cette vidéo, expérimenter la présence de Dieu. Expérimenter la présence de Dieu. Et comme je l'avais dit il y a 2 semaines, on va étudier le texte dans Exode 3, du verset 1 à 6, tout d'abord. C'est un texte que le pasteur Sergio a utilisé il y a 2 semaines pour la prédication dominicale et que j'ai eu l'occasion de reprendre donc dimanche en l'abordant différemment. Et en y allant avec un texte qui est un peu plus concis, le pasteur Sergio avait été du verset 1 au verset 39. Je me suis limité aux 6 premiers versets. C'est ce qu'on va reprendre cette semaine. Toujours dans cette pensée que la présence de Dieu nous environne, mais comment pleinement expérimenter cette présence divine. Donc, Exode 3 du verset 1 au verset 6, je vais lire pour vous. Et puis, la parole de Dieu, donc, il va comme suit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et je relis pour vous les deux premiers versets, même les trois premiers versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quel est cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Première chose qu'on doit dire, depuis le début de l'année, puisque la thématique de cette année, c'est « Jésus est vraiment ici », c'est la thématique qu'on a senti de donner à notre Église pour cette année 2022, Jésus est vraiment ici. Et ça se base sur le verset qui nous est mentionné lorsque Jésus va être enlevé vers le ciel, lorsqu'on parle de l'ascension de Jésus. Donc, il meurt, il ressuscite, il apparaît pendant un certain temps à ses disciples, il va, il vient, et à un moment donné, ils ont rendez-vous avec Jésus, ses disciples. Ont rendez-vous avec Jésus et Jésus leur donne ce qu'on appelle la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc cette grande commission d'aller et d'évangéliser, d'aller et de convertir l'ensemble des nations, après avoir donné cette commission, après avoir lancé l'Église, Jésus va dire à ses disciples, « Et voici, je m'en vais, mais je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est de là qu'on tire donc notre slogan pour cette année, « Jésus est vraiment ici. » Et bien entendu, comme on l'a rappelé régulièrement, on exhorte les uns et les autres, principalement les enfants de Dieu, bien entendu. Ça devrait être naturel, mais il est bon de le répéter. On les exhorte à vivre en ayant la conscience que Jésus est à leur côté. Et assurément, ça change une vie de savoir que Jésus est à nos côtés. Si on sait que sa présence est effective près de nous, qu'il se tient là à nos côtés, que c'est une réalité absolu. À ce moment-là, quand je suis en présence de quelqu'un, ben j'ai une petite gêne par rapport à ce que je peux faire, à ce que je peux dire, à comment je peux me comporter. En général, on adapte notre comportement si on est seul ou accompagné. Il y a des choses qu'on va se permettre en étant seul, qu'on ne se permettra pas en étant en public ou en étant accompagné. Alors, à plus forte raison, si nous vivons avec la connaissance et la conscience que Jésus est à nos côtés, alors toutes nos paroles vont être influencées par le fait que je sais qu'il est à mes côtés et qu'il m'entend. Mes actions vont être modelées par le fait que je conçois qu'il est à mes côtés. Alors je ne vais pas m'exposer, faillir, voire me vautrer dans le péché si j'ai cette conscience que Jésus est à mes côtés. Je vais châtier ma façon de faire. Quand je parle de châtier, je vais faire attention à ma façon de faire. Je vais probablement faire attention à mon langage. Il y a des personnes qui se permettent de parler un peu de n'importe quelle manière, mais quand ils sont à l'église, ils parlent d'une autre manière. Foncièrement, en ayant Jésus à nos côtés, notre langage devrait toujours être mitigé ou notre langage devrait toujours être vérifié, être concis et être influencé par le fait que Jésus est à mes côtés. Dans le plus cru des exemples, certains vont se permettre de blasphémer à droite et à gauche, à tire-larigot, mais lorsqu'ils sont à l'église, ben là, ils optent pour un langage qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus distingué. Et je ne parle pas d'avoir un langage qui est pédant, un langage qui est ce qu'on appelle des phrases à rallonge. Je parle simplement de faire attention à ce que je dis. Est-ce que ce que je dis honore Dieu? Est-ce que la façon dont je le dis, ça honore Dieu? Donc si je suis conscient que Jésus est à mes côtés, non seulement mon comportement va en être influencé, mais je vais aussi avoir un certain contrôle sur mon langage parce que je ne veux pas être un sujet de honte, un sujet de scandale en présence de mon Seigneur, de mon Sauveur, de Jésus. Mais au-delà de concevoir que Jésus est présent parmi nous, cette semaine, on veut parler sur le fait que on peut ou non expérimenter la présence de Dieu. Lorsqu'on regarde le verset 1 qui nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Il y a deux mots importants ici, le mot désert et le mot Horeb. Le mot désert, qui est le terme hébraïque, pour ceux qui nous regardent pour une première fois peut-être, l'Ancien Testament, donc tout ce qui est écrit avant la venue de Jésus sur terre, c'est en hébreu qu'on retrouve les textes originaux. Lorsqu'on regarde ce qui est écrit à partir de l'arrivée de Jésus jusqu'à l'Apocalypse, ce livre qui nous parle de la fin des temps, ça c'est écrit plutôt en grec et quelques parties en araméen. Donc quand on dit, regardons le texte ou le mot en hébreu, c'est parce qu'on est dans un passage de l'Ancien Testament. Donc ici on a le terme désert en hébreu, midbar. Pour ceux qui prennent des notes, c'est M-I-D-B-A-R, Midbar, désert, M-I-D-B-A-R, qui veut dire un lieu inhabité. Si on ne parle pas d'un lieu qui serait asséché nécessairement, on parle foncièrement d'un lieu qui est inhabité, voire un lieu sauvage, donc un lieu où les populations ne se sont pas établies. De surcroît à cela, on nous dit que Moïse arriva avec le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. La montagne de Dieu à Horeb. Horeb, c'est un terme hébraïque, donc H-O-R-E-B, bien entendu, qui veut dire cette fois-ci un lieu désertique. Tout à l'heure, c'était un lieu qui était inhabité, et ici, Horeb, qui est un peu un synonyme, parle d'un lieu désertique, donc un lieu qui est asséché, un lieu qui n'est pas propice à la croissance, un lieu qui n'est pas fertile en soi. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que on semble vouloir mettre une emphase toute particulière sur le fait que Moïse est tout seul avec son troupeau. Et la première notion que ça révèle pour vous et pour moi ce matin, c'est que expérimenter la présence de Dieu est une chose qui se fait seule. Dans le sens où, oui, ça peut être en groupe, mais c'est une chose qui est expérimentée individuellement. On peut effectivement se retrouver dans une salle et louer Dieu tous ensemble, et effectivement sentir la présence de Dieu tous ensemble, expérimenter cette présence tous ensemble, mais ça reste une expérience tout à fait individuelle. Dans le sens où expérimenter la présence de Dieu, un mari ne peut pas le forcer sur son épouse, ou vice-versa. Un parent ne peut pas forcer un enfant à expérimenter la présence de Dieu. Pas plus qu'un enfant ne peut forcer sa fratrie à expérimenter la présence de Dieu. L'expérimentation, l'expérience de la présence de Dieu est une chose tout à fait individuelle. Mon père était pasteur, mon père était croyant, j'étais croyant, je grandissais dans une famille chrétienne, mais la présence de Dieu, ce n'est pas parce que mon père en parlait, ce n'est pas parce que mon père pouvait l'expérimenter, que moi, tout simplement parce que je suis enfant de chrétien, voire enfant d'un pasteur, que j'expérimentais cette chose-là. Je devais avoir ma propre expérience. David a expérimenté la présence de Dieu, mais Salomon, son fils, a été lui-même obligé, lui-même interpellé pour expérimenter cette présence. Donc, c'est pas quelque chose qui se transmet d'une génération à l'autre, et c'est pas quelque chose qui peut être forcé d'une personne à l'autre. C'est une expérience tout à fait individuelle, voire solitaire. Parfois, le pasteur André, lorsqu'il parle de la marche chrétienne, il dit que c'est une marche qu'on fait en groupe, mais individuellement. Ça veut dire que oui, on est supposé vivre en communauté et expérimenter ce qu'est la communauté chrétienne, la fraternité des croyants, effectivement, mais la marche chrétienne reste une décision tout à fait personnelle. Un mari ne peut pas marcher double distance en disant je marche en partie pour mon épouse. Non, il peut encourager son épouse, il peut soutenir son épouse, il peut exhorter son épouse, mais il ne peut pas faire la marche chrétienne à sa place. Vice-versa, il en est de même pour l'épouse. Elle peut prier pour son époux, elle peut exhorter son époux, elle peut encourager son époux, mais la marche chrétienne de son époux est tributaire de l'époux uniquement. Et l'expérimentation de la présence de Dieu est donc quelque chose de solitaire. Voilà pourquoi régulièrement on va avoir des gens qui sont dans un même lieu. Et certains vont dire, j'ai vraiment expérimenté la présence de Dieu aujourd'hui, dans le sens où j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et le voisin est là à côté et lui est impassible en se disant, mais moi je n'ai strictement rien ressenti. Donc c'est vraiment une expérience qui est tout à fait personnelle. Voilà pourquoi il est important de chercher cette expérience-là et de ne pas se limiter au fait que les autres autour de nous puissent l'expérimenter. Je parlais hier du fait qu'en grandissant dans un foyer chrétien, on en vient parfois à croire que notre foi est tributaire des parents. Il est vrai que ce sont mes parents qui m'ont amené à l'église. Il est vrai que mes parents ont été mes premiers professeurs d'école du dimanche, qui se passait du lundi au dimanche, en fait, cette école-là. Mes parents étaient les premiers qui veillaient sur mes pas initiaux dans la foi. Mais ces pas-là, mes parents ne pouvaient pas les faire pour moi. Ça restait que c'était une décision personnelle. Et c'est le danger pour plusieurs jeunes qui viennent à l'église avec les parents de ne jamais passer à cette autre étape où le Dieu de leurs parents devient aussi leur Dieu, où l'expérimentation des parents vient à se dissocier ou à se défaire de l'expérimentation des enfants. Au départ, on est tributaire de nos parents, mais à un moment donné, il nous faut avoir cette rencontre tout à fait personnelle, tout à fait individuelle avec Jésus. Et faute de chercher et faute de connaître cette expérience, certains en font naufrage, puisque leur expérience avec Dieu reste tout simplement l'expérience de quelqu'un d'autre. Dans le verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Deux choses importantes. L'ange de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ange de l'Éternel? Deux mots. Ange, Malak, M-A-L-A-K, pour ceux qui prennent des notes toujours. Malak, M-A-L-A-K. On nous parle effectivement d'une créature céleste. On nous parle effectivement d'un être céleste qui pourrait être un ange. Mais lorsqu'on parle de l'ange et qu'on l'associe à l'Éternel, l'ange de l'Éternel, on ne parle pas d'un serviteur de l'Éternel, on ne parle pas d'une entité spirituelle qui serait soumise à Dieu. On parle effectivement ici de ce qu'on appelle une théophanie, T-H-E, accent grave, O-P-H-A-N-I-E, je répète, une théophanie, T-H-E, accent grave, O-P-H-A-N-I-E. Une théophanie qui veut dire une manifestation de Dieu. Le fait qu'à un moment donné, Dieu se rend visible, Dieu se manifeste. Et ici, c'est ce qui se passe. Dieu vient se manifester, Dieu vient apparaître à Moïse. Dieu veut t'apparaître à toi aussi. Est-ce qu'il veut t'apparaître de façon physique? Si c'est le cas, tant mieux. Ça n'est jamais arrivé. Est-ce que j'ai déjà vu Dieu bouger dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà ressenti et expérimenté la présence de Dieu? Assurément, mais de l'avoir vu de mes yeux propres, ça ne m'est pas arrivé. Le cas où Dieu se rend visible à l'homme, on appelle ça une théophanie. Et là, on nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. C'est Dieu qui a voulu apparaître à Moïse. Moïse ne faisait que passer par cet endroit-là. Peut-être pensait-il que c'était le plan que le beau-père avait établi pour lui en disant, voilà, tel jour, à telle heure, il faudra que tu sois rendu à tel endroit pour que mon troupeau puisse avoir adéquatement de l'eau et adéquatement de la nourriture. Et donc, le chemin tracé, dicté par le propriétaire. J'ai trop le beau-père de Moïse, donc traçait le chemin qui allait par là. C'est plus que ça. C'est Dieu qui mène nos pas et c'est Dieu qui établit les circonstances dans nos vies pour nous amener dans des moments de rencontre avec lui, dans des moments où Dieu vient se manifester. Et c'est Dieu qui désire ces moments-là. Alors je tiens à te dire, mon ami, je tiens à te dire, mon frère, ma sœur, Dieu veut effectivement apparaître dans ta vie. Dieu veut effectivement te permettre d'expérimenter sa présence. Il n'a pas envie simplement que ta relation avec lui reste une relation à travers le vécu de quelqu'un d'autre, à travers le témoignage de quelqu'un d'autre, à travers le témoignage que tu as entendu, le témoignage que tu as lu, mais qui vient toujours de quelqu'un d'autre. Dieu veut effectivement se présenter à toi et il veut que tu expérimentes sa présence. Il veut que ce soit au-delà de simplement savoir qu'il est à tes côtés. Il veut que tu puisses bénéficier de tout ce qui est lié à la présence mémorable, à la présence manifeste et majestueuse du roi des rois. Donc Dieu a pris comme décision d'apparaître à Moïse. Dans le jardin d'Éden, on nous dit que Dieu, le soir venu, descendait marcher dans le jardin avec Adam et Ève. Ça a toujours été le désir de Dieu d'être en communion avec son peuple. Et Dieu a encore le désir aujourd'hui d'être en communion avec toi. Donc, il place les événements, il place les circonstances, il trace le chemin devant toi pour t'amener à ces points de rencontre, à ces moments tout précis et tout précieux où tu rencontres Dieu et tu peux expérimenter sa présence ineffable. Ce qui est intéressant ici, c'est que on nous dit que Dieu lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et que Moïse va se mettre à regarder le buisson puis il se rend compte que le buisson est en feu mais que le buisson ne brûle pas. Alors pour qu'une chose brûle, ça prend certains ingrédients, notamment ça prend un combustible, ça prend quelque chose qui brûle. Mais plus encore, ça prend du temps. Il y a un moment où la chose commence et un moment où la chose s'arrête. Et il y a une progression dans le feu. Ce n'est pas stagnant, ce n'est pas arrêté, c'est quelque chose qui commence, qui s'intensifie, qui réduit et qui s'éteint éventuellement. Dans le cas du buisson ardent ici, on nous dit que le buisson brûle mais ne se consume pas. Quel est le facteur qui manque? C'est le facteur temps. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui se présente à Moïse. Et l'Éternel, donc celui qui dure d'éternité en éternité, contrairement à la vision qu'on a très souvent de dire l'éternité, ça comprend le passé, ça comprend le présent et ça comprend le futur. Comprenons une chose, la notion du temps est purement humaine. La notion du temps a commencé avec la création de ce monde. Lorsque Dieu a fait un matin et un soir, il eut donc un jour. C'est à ce moment-là que le temps a commencé. Et le temps perdure pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce qu'on arrive un jour dans la Jérusalem céleste, lorsqu'on va arriver un jour dans ce qui est décrit dans l'Apocalypse, ou à ce moment-là, dans cette reconstruction de l'univers, dans cette régénération de l'univers, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de nuit ni de jour, il n'y a plus un soleil, mais que tout est éclairé par la présence même de Dieu. La notion de jour va s'arrêter lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, lorsqu'on arrive dans l'établissement du royaume de Dieu et de la nouvelle Jérusalem. Ça veut donc dire que le temps est propre à l'homme, mais pas propre à Dieu. L'éternité, en fait, c'est le moment présent qui dure et qui perdure pour toujours. Qu'est-ce que je veux amener ici comme pensée? Je veux amener sur le fait qu'une rencontre avec Dieu, c'est un moment d'éternité. Une rencontre avec Dieu, c'est un moment figé dans le temps. Et un moment figé dans le sens où le temps ne compte plus, le temps n'est plus important, le temps s'arrête. Voilà souvent où on peut faire la grande distinction entre concevoir la présence de Dieu et expérimenter profondément la présence de Dieu. Lorsqu'on en vient à ce moment tout particulier, mémorable, d'expérimentation de la présence de Dieu, le commentaire que les uns et les autres font, c'est que le temps a perdu sa grippe sur nous. Le temps n'était plus important. Et je vous ai donné deux exemples reliés à mon père hier, notamment le jour de sa conversion. Il voyageait vers le nord du Québec parce que pour le travail, il était amené à se déplacer. Et c'était une journée d'hiver. Et il prend donc le vol à Dorval, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, et il doit se déplacer vers le nord du Québec. Pour contre, il y a une tempête de neige. Donc l'avion est dévié vers la ville de Québec. On la voit à l'hôtel en lui disant demain matin, lorsqu'il y aura éclairci, vous reprendrez votre vol et on partira, mais pour ce soir, vous restez à l'hôtel. Donc il va à l'hôtel et la première chose qu'il fait, il commence à ouvrir par curiosité les tiroirs des différentes commodes et il tombe sur une Bible que le ministère, les Gédéons, distribuait jadis. Ils font un peu moins aujourd'hui dans dans les hôtels parce que ça prend une autorisation et tout ça. C'est un peu plus compliqué. Mais il tombe donc sur une Bible des Gédéons. Et au début de la Bible des Gédéons, il y a une espèce de glossaire ou de lexique, de table de matière, en disant si vous vous sentez de telle manière, de telle autre manière, de telle autre manière, si vous êtes malade, si vous êtes déprimé, si vous êtes inquiet, allez lire tel passage ou tel passage ou tel passage. Et le passage que mon père est allé lire, c'était dans les psaumes, ce merveilleux passage où David va dire « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'était la première fois où mon père tombait sur une Bible depuis sa jeune enfance. On est d'origine française et italienne. La famille de mon père est italienne à 100%. Donc mon père a été servant de messe dans son enfance, mais depuis sa petite enfance, il n'avait plus touché à une Bible. Et la chose qu'il nous raconte ce jour-là de ce qui s'est passé, il n'est pas vraiment conscient en fait de ce qui s'est passé. Il sait juste que le lendemain matin, après avoir lu ces versets, le lendemain matin, il est revenu à lui. Il avait les bras en l'air et la chemise complètement trempe d'avoir pleuré toute la nuit. Mais il dit, je ne suis pas conscient de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est là où on parle d'une rencontre avec Dieu, d'un moment d'éternité où le temps n'a plus d'emprise sur nous, où le temps ne compte plus. Ce qui est important, c'est tout simplement d'être dans la présence de Dieu. C'est navrant en tant que croyant si nous n'avons jamais expérimenté ce genre de moment exceptionnel où on a un arrêt de l'horloge, un arrêt de la préoccupation du temps. Et la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est Dieu. La seule chose qui compte à ce moment-là, c'est moi avec le Seigneur et profiter de cette grâce qui nous est faite d'entrer dans cette intimité si merveilleuse et si dense avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu tout d'abord que expérimenter la présence de Dieu est une quête tout à fait personnelle, est un fait tout à fait individuel. En tant que mari, je ne peux pas forcer la présence de Dieu dans la vie de Daphné, mon épouse. En contrepartie, Daphné, bien qu'elle soit mon épouse et qu'elle aurait son temps dans la présence avec le Seigneur, elle ne peut pas forcer cette présence sur moi. C'est une rencontre un à un avec le roi des rois. Et deuxièmement, une marque importante du fait d'expérimenter la présence de Dieu, c'est que le temps s'arrête. À un moment donné, on n'a plus autre priorité, on n'a plus autre tracas, on n'a plus autre désir que d'être dans cette présence et d'y demeurer. Un peu comme le jour de la transfiguration, lorsque Jésus monte à la montagne avec André, Jacques, Pierre et Jean. Et à un moment donné, pendant la nuit, la Bible nous dit que Moïse et Élie vont apparaître et Jésus va en être glorifié. Son visage va resplendir. Et Pierre va dire après coup, « Seigneur, permets-nous de bâtir trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, pour que nous puissions rester ici et demeurer ici. » C'est là où ce temps d'éternité devient si important. Puis on n'a plus envie d'aller nulle part, on n'a plus envie d'aller faire quoi que ce soit d'autre. On sait que l'important, c'est de rester ici, dans ce moment présent, dans la présence de Dieu. Alors, c'est ce que cette semaine, on étudie. C'est ce que cette semaine, on essaie de susciter chez vous et chez moi, cette quête d'un moment d'éternité avec le roi des rois. Alors prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de ce que cette semaine tu nous parles, comment expérimenter la douce et merveilleuse présence de ton esprit. Comment expérimenter la présence de Dieu de façon tangible et palpable dans notre vie. Comment s'y disposer, comment s'y présenter et comment s'assurer d'en tirer tous les bienfaits nécessaire. Alors je prie, Seigneur, qu'effectivement, dès aujourd'hui, il y ait de ces gens qui nous écoutent, qui expérimentent ta présence comme jamais auparavant. Ce moment, Seigneur, où on pourrait rester des heures et des heures, tout simplement, à contempler ta gloire et à être bouleversé, transformé par la douce présence de ton esprit. Alors je prie que ce soit quelque chose que mes frères, mes sœurs puissent expérimenter aujourd'hui, dans les prochains jours, que ce soit, Seigneur, une expérience marquante qui change le cours de notre existence. Bénis ma sœur, bénis mon frère, prends contrôle du cours ce soir sur le livre aux Éphésiens avec le pasteur André. Inspire-le, dirige-le, conduis-le pour parler à ton peuple. Sois avec nous dans nos moments d'intimité avec toi, dans les moments de prière qu'on aura aujourd'hui, dans les moments de méditation, que ce soit des moments exceptionnels. Nous t'avons prié en sachant que tu nous aimes, que tu prends soin de nous et que tu veux te révéler à nous. Nous l'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve donc ce soir avec le pasteur André à 19h sur toutes les plateformes Internet. Je vous rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, jeudi soir, on a la Sainte Cène. Donc ce sera l'occasion de commémorer la mort de Jésus. On le fait le jeudi soir parce que c'est le même soir que Jésus a pris la communion, a célébré la Pâque avec ses disciples. Alors, simplement pour respecter le même calendrier, on le fait nous aussi le jeudi soir. Donc, ce sera jeudi soir. On vous demande de préparer vos cœurs. La Bible nous dit qu'on ne peut pas prendre part à la table avec un péché non confessé. On ne peut pas prendre part à la table en ayant des griefs non pardonnés envers quelqu'un qui nous entoure, envers quelqu'un qui nous a offensés. Donc, on vous invite à pardonner, on vous invite à relâcher les griefs que vous pourriez avoir contre quelqu'un, voire même, on vous invite à aller chercher le pardon. La Bible nous dit que si tu t'apprêtes à donner une offrande à Dieu, mais que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va régler la chose, puis reviens à ton offrande. Donc, on vous invite à régler ce qui est à régler et aussi à préparer dans le pratico-pratique, à préparer donc un peu de pain et puis une coupe, vin, raisin, selon vous, pour la Sainte Cène de ce jeudi soir. Ce sera à 19h et strictement en ligne. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée dans la présence de Dieu parce qu'il est là constamment avec vous, mais je prie que vous puissiez expérimenter de façon palpable et tangible sa merveilleuse présence dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.